Alors, comme on l'a entendu au début du culte, nous poursuivons aujourd'hui un parcours de quelques paraboles d'été dans l'Évangile selon Luc. Et puis après, une parabole d'économiste, une parabole de boulanger, une parabole de jardinier. C'est une parabole de menuisier qui va retenir notre attention ce matin. Et comme pour les précédents épisodes, nous procéderons avec le même schéma. Ceux qui étaient là le reconnaîtront. Alors, si on veut parler d'une parabole de menuisier, il faudrait préciser ce qu'est la menuiserie, si besoin en est, et peut-être. La première définition, celle qui nous vient tout de suite en tête, c'est que c'est une activité artisanale ou industrielle consistant à fabriquer des ouvrages en bois à partir de pièces de faible section, donc de petite taille, et destinées à être assemblées. Mais on peut aussi donner une définition un peu plus technique, plus actuelle, de la menuiserie, et c'est un terme générique désignant des ouvrages en bois, aluminium ou PVC, destinés aux bâtiments, comme des portes, des fenêtres, des volets. Oui, quand on est menuisier, on fabrique des portes. Et dans notre parabole du jour, justement, il y a une porte. Mais avant de lire cette parabole, il nous faut voir quelle est la personnalité du jour. À chaque parabole, on trouve une personnalité. Et aujourd'hui, il s'agit de Ludovic Avenel. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Il est très connu, mais dans le monde de la menuiserie. C'est l'un des meilleurs menuisiers français aujourd'hui et lauréat de nombreux prix. Et pour lui, je cite, « Quelle joie lorsque le partage avec le client donne naissance, via le dessin et la conception, à la fabrication d'une pièce sur mesure, comme une porte. Une fois la pièce livrée, ce que je retiens, dit-il, ce sont ces moments de partage où tout reste possible. Ces moments de partage où tout reste possible. » Et justement, en parlant de porte, en parlant de moments de partage où tout reste possible, je vous propose de lire cette histoire que Jésus raconta à une foule de gens, des personnes qui le suivaient et avec qui il discutait. Jésus traversait les villes et les villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. » Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, continue Jésus, « vous vous trouverez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire, « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous lui direz, « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Il vous dira de nouveau, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et que vous grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le règne de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. Des gens viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et prendront place à table dans le règne de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Alors, quelques mots de contexte pour bien situer, pour mieux comprendre cette histoire. Tout d'abord, il faut se rappeler de l'époque, du premier siècle, il y a 2000 ans, où les religieux juifs exercent un certain pouvoir d'influence, voire d'emprise sur le peuple. Mais ces religieux ne sont pas tous d'accord sur la façon de vivre, d'interpréter et d'instruire la religion. Vous ne direz rien de nouveau sous le soleil. Mais il faut dire que certains de ces religieux s'étaient retirés dans le désert, vivaient en communauté recluse, en pensant que seuls seraient sauvés. D'autres pensaient que c'était grâce au respect de la loi, et particulièrement tout ce qui tourne autour de ce qui est pur, de ce qui est cachère, que c'est cela qui leur donnerait le salut de Dieu. D'autres encore, ceux qui avaient le pouvoir, les richesses, insistaient sur la spiritualité. Il faut venir au temple. Et tous ces courants religieux, les auditeurs les connaissaient, et Jésus aussi, et c'est pour ça que eux pouvaient bien le comprendre. L'autre contexte qu'il faut prendre en compte, c'est l'Évangile, le texte de Luc, l'auteur. Il place cet épisode au beau milieu d'une longue série de dialogues, de discussions entre Jésus et ses contemporains, et un petit peu avant de rappeler que Jésus se dirige vers Jérusalem. Il s'y dirige pour y mourir en tant que prophète. Et par cela, l'auteur veut rappeler que c'est lui le prophète dont Moïse parlait déjà, que la venue du Christ, et sa mort en particulier, a une signification. Un petit peu comme si le bois de la croix devenait la porte ouverte au salut pour tous. Un salut dont il est justement question dans la parabole. Alors on résume les personnages de cette histoire. Il y a Jésus, bien sûr. Il y a cet homme qui ose poser une question, la question du départ. Il y a aussi ce maître de maison. Et puis, il y a ce « nous, vous » avec qui le maître de maison discute, et ce « nous, vous » ne reste pas dans la parabole. Il semble se confondre avec les auditeurs de Jésus, mais aussi avec les lecteurs du texte, avec nous-mêmes aujourd'hui. Alors, mettons-nous dans la peau d'un menuisier. Que dirait, par exemple, Ludovic Avenel, vous vous souvenez, la personnalité du jour, de la façon dont Jésus parle d'une porte, de la façon dont cette porte est utilisée pour fermer l'entrée à ces personnes qui cherchent à entrer chez le maître de maison. Le véritable menuisier dans l'histoire, ce n'est pas cet homme qui ose poser une question. Ce n'est pas non plus ce « nous, vous », l'un d'entre nous. Ce n'est même pas Ludovic Avenel. Non, le véritable menuisier dans l'histoire, c'est bien Jésus. Et son approche de la menuiserie, elle est fine, perspicace. Et il va pointer trois failles chez ses auditeurs. La première faille, elle concerne les exclusivistes, ceux qui pensent que eux seuls sont les vrais, que eux seuls sont les vrais chrétiens, que eux seuls seront sauvés. Non, Seigneur, pas mon voisin qui fait tellement de bruit le dimanche matin, Non, Seigneur, pas mon voisin qui récite toujours la même prière. On pense peut-être à des catégories ou à des courants. Ces exclusivistes construisent des murailles pour se croire en sécurité. Et là, l'image qui me vient en tête, c'est celle de Picsou, qui construit un immense coffre-fort pour tout son argent, pour son bureau, pour sa maison, et il le protège contre les fameux rappe-tout et ne laisse entrer personne. Ceux du dehors sont différents. Ils n'ont pas ce que j'ai. Pourquoi devraient-ils aussi y avoir droit ? C'est un peu la question, finalement, que se pose cet homme dans notre histoire. Deuxième faille, elle concerne ceux qui font le mal, les méchants. Et là, l'image qui me vient en tête, ce sont les frères Dalton. Vous les connaissez sûrement, ces méchants qui parfois se déguisent, peut-être en anges dans l'image, pour paraître de bons citoyens, mais qui rentrent quand même dans chaque banque pour la voler, se faire attraper par Lucky Luke, évidemment. Méchants. Troisième faille, elle concerne ceux qui aiment les premières places, au détriment des autres. Ceux qui aiment les honneurs plus que d'honorer le prochain. Et Jésus va souvent parler des religieux de son époque avec cette image des premières ou des meilleures places, souvent qui les obtiennent en écrasant tous les autres. Pour avoir quoi ? Le pouvoir ? Et l'image qui me vient en tête, c'est celle de tous ceux qui ont voulu s'emparer de l'anneau unique dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, qui étaient prêts même à tuer leurs meilleurs amis, comme on le voit sur cette image. Sméagol qui va tuer son ami pour récupérer l'anneau. Et quand ceux qui voulaient s'emparer de cet anneau pensaient l'avoir à portée de main, c'est le cas de le dire, ils pensaient avoir à portée de main tout le pouvoir du monde. Finalement, ils ont tous succombé à son pouvoir destructeur. Heureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas aux critiques et aux constats parfois amers ou peut-être difficiles à avaler quand cela nous concerne. Jésus, en bon menuisier, donne des conseils. Et l'auteur de l'Évangile souligne trois conseils. Premier conseil, la porte que Jésus fabrique, la porte est accessible à tous, et même aux plus faibles. Là où l'homme avait un côté exclusiviste, en pensant que peu de son temps aurait accès au salut de Dieu, Jésus balaie cette idée, en maniant l'humour, l'ironie, même en abondant dans le sens de cet homme quand il dit « Oui, oui, faites bien tous vos efforts pour être sauvés, parce que ça va être difficile, va falloir se battre pour passer, et les plus forts seront évidemment les gagnants. » Par là, et aussi quand il dira que la porte a été fermée à clé, Jésus dit bien tout le contraire. Le salut de Dieu n'a besoin d'aucun effort pour être obtenu. C'est Dieu lui-même qui s'est rendu accessible à l'être humain, pas le contraire. Et le salut de Dieu, il est justement là pour les plus faibles, comme pour les plus forts d'ailleurs. Il est là pour redonner de la dignité et relever là où les plus forts écrasent tout et tout le monde sur leur passage. Deuxième conseil, la porte est accessible à tous et même aux étrangers. Et c'est intéressant de voir que Jésus parle de géographie, d'origine, d'immigration finalement, des populations différentes, et peut-être d'une allusion à notre définition moderne du racisme. Oui, le salut de Dieu, il est accessible aux religieux juifs du premier siècle à qui Jésus s'adresse. Mais oui, aussi, le salut de Dieu, il est accessible à tous ceux que les pharisiens méprisaient. et pas seulement à ces quelques religieux. Et en plus de fabriquer une porte, le menuisier Jésus fabrique aussi une table. Pas une table pour vérifier notre identité et notre origine, mais une table pour manger ensemble. Une table pour se réjouir, pour vivre ensemble. Le troisième conseil, la porte est accessible à tous. Mais peut-être que certains faibles passeront par cette porte avant les religieux à qui Jésus s'adresse. Alors Jésus ne leur dit pas par là que les derniers de la société, ceux-là même qui sont méprisés, remplaceront ces religieux dans le salut de Dieu, mais il leur dit simplement que s'ils ouvraient les yeux, ils seraient surpris de voir que ces faibles qu'ils méprisent, qui sont à la marge de la société, eh bien, ils peuvent aussi passer par cette porte. Ils en ont aussi le droit. Et certains pauvres, certains faibles, dans leur contexte, l'avaient sûrement fait, mais sans que leurs conditions changent nécessairement. Parce que quand on s'engage à la suite du Christ, on en a entendu parler dimanche dernier, notre compte en banque ne va pas se remplir et notre condition sociale ne va pas forcément changer. Et on ne va pas forcément sortir de cette catégorie des méprisés. Non, mais ce n'est pas non plus parce qu'on fait partie de ceux qui sont méprisés que nous sommes honteux. Pardon, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont méprisés, comme ces religieux juifs, qu'on est automatiquement déjà passé par cette porte. Et ça, c'est finalement le conseil que les religieux doivent retenir. Alors malgré tout, les conseils du menuisier Jésus sont à appliquer à deux niveaux différents, et ils nous emmènent tous les deux vers une finalité, vers un objectif final. Le premier niveau, c'est celui de notre vie sur terre. Parce qu'en tant qu'apprenti menuisier, en apprentissage et surtout à la suite du Christ, nous pouvons fabriquer parfois plus de portes et de remparts qu'il ne faut. D'ailleurs, il ne faut aucun rempart, juste une porte. Et cette porte, elle a déjà été fabriquée, et c'est même une personne, c'est le Christ. Et en termes modernes, on pourrait dire qu'en tant qu'apprenti menuisier, on a juste à s'occuper de la boutique où la porte est présentée, de l'église et de tous ses clients, entre guillemets, toutes ces personnes qui passent sur ce chemin, par cette porte. Oui, une boutique ouverte à tous, qui accueille aussi les plus faibles, qui accueille aussi les étrangers et qui accueille aussi les derniers. Le deuxième niveau, c'est celui de notre vie en présence de Dieu, sur une terre renouvelée. Qu'on se le dise, même si Ludovic Avenel est l'un des meilleurs menuisiers au monde, Dieu a autre chose en tête qu'une simple porte. Dieu a en tête l'avenir. Et l'espérance qu'il propose à l'humanité, c'est un jour de vivre pour toujours, en sa présence totale, permanente. Sur une terre où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de tristesse causée par l'exclusivisme, la méchanceté et l'orgueil. Plus de tristesse causée par l'amour des premières places, plus que l'amour du prochain. Causée par la méchanceté et la volonté de dominer sur l'autre. Causée par l'amour de l'argent et la soif de pouvoir, plutôt que la possibilité de partager un bon moment avec son prochain. Le Christ lui-même sera là, avec nous. Et en cela, Jésus est le menuisier idéal. Il est lui-même la porte. Il est lui-même le chemin qui mène à cette porte et qui continue après cette porte. Jésus est le salut de Dieu. Il est ce menuisier vers qui on peut venir pour poser nos questions sur telle ou telle essence de bois ou sur comment assembler une porte sans vis. Mais il est aussi celui que nous pouvons suivre en aimant notre prochain, en préférant l'ouverture plutôt que l'exclusivisme. Mais il est aussi ce Dieu qui nous aime, chacune, chacun d'entre nous, celui qui se tient à la porte, une porte grande ouverte pour tous, pour pouvoir avoir des moments de partage où tout reste possible, pour reprendre ce que disait Ludovic Avenel. Jésus est celui qui a donné sa vie pour chacune et chacun et qui veut même la partager avec nous pour toujours. Amen.